Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Crème de la Crème qui va passer un petit moment de l'émission aujourd'hui au Théâtre du Vieux Saint-Étienne pour y rencontrer quelques-uns des artistes qui vous proposent des expositions à voir pendant un temps assez court. Donc jetez-vous sur ces installations-là du 5 au 8 octobre jusqu'à dimanche. Donc vous pourrez voir les installations de Benjamin Le Baron et Tristan Ménez, ça c'est Instabilité. Vous découvrirez aussi La perception de l'astronome par Lucien Biteau et puis Train fantôme de Macula Nigra, Loïc Kreff et Simon Poligné. On les entend tous dans l'émission tout à l'heure, mais avant ça, quelques nouveautés, à commencer par notre disque d'or de la semaine, Suzanne Chiani et Jonathan Fitoussi dans un instant, et puis un nouvel album pour le Suisse Pierre Homer, qui faisait partie en tant que guitariste des Dell Brothers il y a longtemps, et puis qui a sorti un album déjà sur Voodoo Rhythm, et qui en sort un second le 20 octobre prochain. On écoutera aussi La machine à remonter le son qui nous emmène en 1983 pour une dernière fois cette semaine, puisqu'il n'y aura pas d'émission conventionnelle vendredi soir. Nous serons en direct du Tabor pour vous faire vivre quelques moments pendant le festival du Grand Soufflet. Mais on commence directement avec ce Coral Reef par Suzanne Chiani et Jonathan Fitoussi. Bel album à quatre mains et à beaucoup plus de synthétiseurs modulaires, intitulé Golden Apples of the Sun, pour le producteur et musicien français et puis la légende de la musique ambiante analogique, Suzanne Chiani. Bonne émission.
my dream come true. The years go by and you are still around. There was a time I really did love you. I hear a little bird singing out on the edge of my window. A little bird stops singing, now all I hear is a crow. How I could give you a spicy kiss. Go to the island and spend the night of bliss. We go out for a little drink at the bar. A special drink they have in Zanzibar.
C'était à l'instant Pierre Homer's Swing Review et un extrait de l'album Tropical Breakdown. Il sortira le 20 octobre prochain. C'est une petite avant-première que je vous propose de cette deuxième sortie pour le musicien ancien membre des Dead Brothers qui le sort cet album sur le label Voodoo Rhythm. On est dans des ambiances jazz, gypsy, swing, exotica, mais avec quand même quelques salissures un petit peu garage. C'est très très classe qu'il propose Pierre Homer. Et vous avez pu en entendre à l'instant ce morceau qui nous faisait voyager jusqu'à Zanzibar. On revient sur les côtes bretonnes dans un instant avec une étonnante relecture de L'amour à la plage. Oui, oui, la chanson de Niagara, toujours par Pierre Homer's Swing Review. L'album sort le 20 octobre seulement, mais vous l'entendrez abondamment sur Canal B, une sortie du label Voodoo Rhythm.
Toi et le bleu. le cœur tout retourné. Là je t'embrasserai jusqu'à la fin de l'été. Jusqu'à la fin de l'été. Jusqu'à la fin de l'été. Body motion caught in time. Come on girl, please be mine. Body motion caught in time. Come on girl, make up your mind. Body motion caught in time. Come on girl, please be mine. Body motion caught in time. Come on girl, make up your mind. Make up your mind.
En 1983, à nouveau, avec la machine à remonter le son qui nous emmenait du côté de Manchester avec les Quando Quango qui ont eu un tube assez mondial quand même. Ça a marché des deux côtés de l'Atlantique, ce titre Love Tempo en 1983. Et ça allait donner un petit peu quelques éléments pour créer ce qu'on allait appeler la UK Acid House. Vous n'aurez pas l'occasion d'entendre souvent Kwando Kwango sur Canal B ou ailleurs, parce qu'ils n'ont sorti que 45 tours et puis un album avant de se séparer. Des musiciens qui ont quand même croisé la route du label Factory, qui ont été mixés par des musiciens de New Order, de Certain Ratio, qui ont eu des invités parmi lesquels Johnny Marr des Smiths. Donc voilà, joli carré d'adresse. Pourtant, ils n'en ont pas profité puisque ça allait s'arrêter 2 ans après le titre qu'on écoutait à l'instant. Là, vous entendiez la version Benelux du morceau Love Tempo par Kwando Kwango. La machine à remonter le son reviendra lundi et encore une fois nous proposera de découvrir une année choisie complètement au hasard entre 1960 et 2022. À suivre la page culture de Crème de la Crème. Dans la page culture de Crème de la Crème, nous irons rencontrer Benjamin Le Baron et puis aussi Simon Poligné ainsi que Lucien Biteau. Le premier propose avec Tristan Ménez Instabilité en version installation au Vieux Saint-Étienne jusqu'au 8 octobre et également à voir au même endroit et pendant le festival maintenant le train fantôme de Simon Poligné et Macula Nigra Louis Creff. Vous saurez tout sur cette virée dans un train fantôme aux couleurs très fluo. Et puis on rencontrera un peu plus tard Lucien Biteau qui nous parlera lui de son installation La Perception de l'Astronome. Retrouvez toute la programmation du festival maintenant sur maintenant-festival.fr. Quand on vous a dit maintenant, c'est très court, c'est 4 jours. Il va falloir en profiter de ces 4 jours pour venir les découvrir, notamment ces installations ici au Théâtre du Vieux Saint-Étienne. On va parler d'instabilité avec Benjamin Le Baron. Bonjour Benjamin.
Bonjour Yann.
Une installation qui va vous en mettre plein les yeux et plein les oreilles, en fait. Une installation conçue avec ton complice Tristan Ménez. C'est quoi ces instabilités? C'est l'idée que l'image peut faire de la musique, que le son peut faire de l'image, que tout est lié dans les perceptions?
Eh ben, effectivement, en fait, instabilité, c'est deux volets. On a le volet performatif, qu'on avait déjà présenté au festival maintenant, il y a 2 ans. Et là, c'est la version installation. Donc ça part du même principe, c'est sur une installation audiovisuelle basée sur la mécanique des fluides. Et donc du coup, sur la version performative, c'était effectivement mes synthés, ma musique, voilà, qui permettait de déclencher, de créer des tableaux visuels. Et là, sur la version installation, c'est l'inverse. En fait, on part d'une des expériences scientifiques que Tristan avait faites sur la version performative pour du coup créer un tableau visuel. Ce tableau visuel en fait est décrypté, enfin capté par une caméra, ce qui nous permet de la projeter sur un écran. Et en plus, on a tout un système voilà, de logiciels qui nous permet de capter des données en temps réel. Et ces données-là vont créer de la musique en temps réel. Donc cette fois, c'est un peu l'inverse, c'est l'image qui va créer du son.
Je vais revenir un petit peu en arrière, si tu peux nous repréciser ce que ça recouvre, la mécanique des fluides.
Oula, bah la mécanique des fluides, c'est vaste débat. Alors pour faire ça simple, la mécanique des fluides, en fait, c'est tout ce qui régit les fluides, donc toute la physique autour des fluides. Donc c'est pas forcément des liquides. Nous, bon, il se trouve qu'on utilise des liquides, mais par exemple le sable, le déplacement du sable, ça fait partie de la mécanique des fluides. Et donc là, c'est tout simple, c'est une goutte d'un mélange encre et alcool qui tombe dans de l'huile. Et voilà, cette petite goutte va se diffracter, se rétracter. Et voilà, ça crée un espèce d'ensemble de un tableau avec plein de petites gouttes. C'est très coloré. On a voulu une esthétique un petit peu assez pop, assez années 80. Donc voilà, il y a beaucoup de couleurs, de choses comme ça.
si le comportement des fluides répond à des règles en fait un peu immuables, on peut le dire, là il y a quand même du hasard qui va intervenir dans ces instabilités.
Il y a beaucoup de hasard parce qu'en fait la goutte est qui tombe dans la petite coupelle. Enfin bon, pour ça, il faudra venir voir le dispositif en direct. En fait, cette goutte qui va tomber, elle tombe vraiment aléatoirement. Il n'y a pas de système mécanique, c'est vraiment, elle tombe avec la gravité. Et donc vraiment, il y a tout un système. Le plus dur, c'était de faire un système en temps réel. Et en même temps, nous, ce qu'on voulait, c'était rajouter pas mal d'aléatoires dans la musique pour que la musique, ça soit une espèce de quelque chose de génératif et que ça soit jamais vraiment la même chose. Il y a une base commune. Voilà, c'est une musique assez ambiante, assez contemplative, et elle va se générer en direct par par cette chute de la goutte et ce que on peut voir en direct. Avec les logiciels qu'on a utilisés, on pouvait pas forcément faire uniquement de l'aléatoire. Donc voilà, là en fait ce qui se passe, c'est que tout ce qui est capté, toutes les informations qui sont captées par la caméra et le logiciel vidéo qu'on utilise, qui est un logiciel qui s'appelle Touch Designer, toutes ces infos là en fait vont être transformées sur un deuxième logiciel de création musicale qui est Ableton Live, et vont être ensuite transformées pour donc gérer en fonction de la grosseur de la goutte. On va avoir des filtres qui vont se déclencher pour mettre donc plus de graves, moins de graves.
Vous avez entendu à l'instant un exemple de cette musique qui va vous captiver pendant que vous regardez aussi les images se transformer, le fluide devenir peut-être plus orange, plus vert, plus violet, des couleurs assez pop, hein, tu disais Benjamin tout à l'heure. Ces instabilités dont on parle avec Benjamin Le Baron, tu es avec Tristan Ménez, hein, pour nous montrer cette version-là. Il y a plusieurs versions en fait. Celle-ci en mode installation a été accompagnée, comme peut-être l'autre version d'ailleurs, par Electronica, l'association qui porte le festival maintenant. Toi, tu dois suivre, j'imagine, les aventures de maintenant depuis longtemps et réciproquement, c'est pas le premier travail en commun.
Non, moi ça fait plusieurs années que je bosse avec le festival, enfin avec le festival et l'équipe. Voilà, il y a aussi des actions qui sont faites tout au long de l'année. C'est le temps fort de l'association Electronica, mais il y a beaucoup d'autres choses. Tu parlais justement des partenaires, et effectivement, Electronica a été le producteur de la version installation et de la version performative. Et il y a eu d'autres partenaires, par exemple, il y a eu la Carène, l'Antipode, le Château Éphémère et l'ASCA à Beauvais.
Et toi, le fait d'être proche, d'avoir vu quand même pas mal d'éditions du Festival Maintenant ou Electronica, quand il s'appelait encore comme l'association, est-ce que ça a pu t'orienter parfois vers certaines créations, vers certaines expérimentations qui, pourquoi pas, amènent aujourd'hui à des choses comme instabilité?
Ça met un peu la pression parce que la barre est haute. Il y a eu beaucoup, beaucoup de très belles choses qui ont été présentées sur le festival. Voilà, je ne dis pas ça parce que c'est mes employeurs, mais je dis ça aussi parce que j'aime beaucoup ce qui est présenté là. Ça ne m'a pas forcément orienté. Forcément, ça donne des idées, ou ça touche ma fibre artistique. Donc, ça influence toujours un peu. De toute façon, dès que je vais voir un concert, je suis un peu influencé. Dès que j'écoute de belle musique, voilà. Et pareil, quand je vois une nouvelle installation, j'essaye toujours de voir comment les gens ont pu faire tel ou tel truc. On va un peu à la pêche aux infos. C'est comme ça aussi que ça se passe, la culture et puis l'art en règle générale, je pense.
Et instabilité, sa vie, après qu'elle sera passée à maintenant, vous allez la faire se balader dans d'autres événements du type du festival maintenant?
C'est le but. Après, on verra comment ça se passe exactement. Mais oui, le but du jeu, c'est qu'après, elle vive sa propre vie et qu'elle se promène là où on a envie de la voir.
Comme le festival se déroule sur une toute petite période, en fait, hein, de jeudi à dimanche,
On n'aura pas le temps de parler avec tous les artistes montrés ici et présents ici au Théâtre du Vieux Saint-Étienne. Est-ce que toi, tu as eu le temps de les voir, les installations, les autres, celles des camarades qui sont montrées ici aussi, ou tu n'as pas eu le temps du tout encore ?
Si, bah on est là depuis 2 jours, donc du coup, pour faire l'installation. Donc, on a pu voir toutes les installations se monter, discuter avec les autres artistes. Je peux juste vous dire de venir, parce que vraiment, il y a des très très belles choses. C'est hyper intéressant. C'est que des choses un peu différentes. Et il y a quand même un univers commun autour de la création numérique. Chacun a sa vision un petit peu de la création numérique, de la culture numérique, et c'est ça qui est hyper cool de mettre tout ça en commun, je trouve.
Arrêtez-vous à frémir, à être pris de terreur, à voir des fantômes peut-être, et tout ça en 3 dimensions. Oui. Je suis avec Simon Poligné, l'un des 2 concepteurs du train fantôme, avec Loïc Kreff. Vous vous êtes amusé, j'ai l'impression, pour faire cette installation, Simon.
C'est exactement ça. À l'origine de ce projet, c'est vraiment l'amusement. On était il y a quelques mois en résidence à Superflu, anciennement le village qui est un centre d'art à Bazouges-la-Pérouse. On était en résidence un peu simultanée, chacun dans notre atelier, et on cherchait un petit projet commun avec Loïc, parce qu'on se connaît, on se suit depuis des années, et ça nous faisait envie d'avoir un petit terrain de jeu commun, en fait, qui nous permette de placer des petits éléments au fur et à mesure de la résidence. Et on avait amené un petit train électrique qui servait de travelling finalement pour... On avait posé un wagon sur le petit train sur lequel on pouvait poser un téléphone et filmer en fait comme un travelling tout un tas de petites maquettes, de petits collages, parce que c'est vraiment l'endroit où on se retrouve tous les deux. On a tous les deux une passion, un dada pour le collage, tout analogique, donc à base de découpage et de collage. Superflu donc est à Bazouges-la-Pérouse, qui est un endroit assez isolé. C'est un endroit où finalement, il n'y a pas de car, il n'y a pas de train. Donc le village est assez excentré. Il y a un centre d'art là-bas qui concerne souvent les Rennais qui passent. Mais finalement, les gens du village viennent assez peu voir les expositions. Et on a décidé avec Loïc, parce qu'on travaillait dans des vitrines qui donnaient sur la rue, de faire quelque chose pour le village. Et en particulier pour les enfants qui passaient devant tous les matins pour aller à l'école et qui scotchaient sur, regardant vaguement, qui n'osaient pas rentrer, sur notre petit train, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec un petit train. Et donc du coup, on s'est lancé juste dans un petit projet de vitrine nocturne, dans la tradition un peu foraine ou désuète des années 50, d'animation de vitrine, et en branchant une lumière noire, vu qu'on a tous les deux une petite acquaintance pour le fluo, on s'est rendu compte que tout prenait vie d'une manière assez fantastique. Et assez rapidement, mais... En récupérant toutes nos recherches de plusieurs années de passion pour des images un peu étranges, pour des ambiances comme ça, on recrée une espèce de petite animation foraine minuscule sans faire forcément un truc vintage ou etc. On est plutôt dans le rétro-futurisme. Donc on expose une grande maquette d'un petit train électrique qui tourne en boucle et autour... tout un décor qui sur le thème du train fantôme.
C'est splendide, vraiment, et c'est vrai que tu parles de rétrofuturisme. On n'est pas vraiment dans ce qui était le train fantôme dans les années 50-60. On est dans le futur, on est dans le passé en même temps. Il y a les origines des attractions foraines aussi qui sont présentes. Et puis ce travail de la profondeur de champ en fait. La 3D, on sait, Loïc Kreff est vraiment fan de ça. Toi tu dois l'être aussi. Et on arrive vraiment à avoir des objets qui sont en 3D qu'on voit évidemment en profondeur et d'autres qui ne sont pas en 3D et qui ont l'air en profondeur aussi.
Bah, c'est exactement ça. Vu que c'est éclairé en lumière noire, ça excite toutes les parties de fluo. Donc en fait, on perd la notion de profondeur réelle, mais on en rajoute parce que tout ce qui n'est pas fluo est presque invisible. Donc on a fait exprès de mixer moi mon travail un peu en sculpture, lui son travail de petite maquette, pour créer des illusions un peu de profondeur. Et alors là on est au festival maintenant, donc comme pour les Rennais, qui est un festival qui est un peu spécialisé dans les cultures électroniques, etc. Pourtant là on est dans un univers complètement DIY plutôt et finalement tout analogique, il y a très peu d'électronique. Mais nous, ce qu'on met en valeur, ce qui est rigolo, c'est que dès qu'on le filme avec les appareils, c'est-à-dire tous les gens qui passent, c'est un peu hypnotisé, filment avec leur appareil photo, prennent des photos, et le résultat est très surprenant. On a du mal à comprendre si c'est de l'image de synthèse ou l'échelle, surtout, qui est incompréhensible, parce que, justement, le fluo accentue complètement les profondeurs, quoi.
On a quand même une attraction dingue. Si elle existait en vrai, je pense que tous les gens prendraient leur ticket directement, même en petit format comme ça, façon un peu diorama, ça donne envie de la voir se déplacer ou se transformer aussi. Ce super fluo, ce train fantôme, il va avoir une vie après maintenant ou c'est juste le résultat de ces expérimentations dont tu parlais tout à l'heure à Bezouges-le-Pérouse et ça ne se reproduira peut-être pas?
Justement, c'est vraiment surtout la proposition d'Electronica. On était très flattés parce qu'ils ont vu notre petite présentation. Là, finalement, c'est la première fois qu'on le montre. Et ils nous ont vraiment proposé de travailler ensemble à une production, c'est-à-dire de chercher dans l'année des moyens, des espaces pour recréer, c'est-à-dire accentuer cette maquette, pérenniser aussi ça, la transformer en une forme qui se transporte, qui puisse voyager, et puis vraiment passer à une version 2, c'est-à-dire quelque chose de un peu plus grand, un peu plus immersif, peut-être un peu circulaire, quelque chose dans lequel on puisse entrer et peut-être avoir des interactions encore plus rigolotes avec ce train. Nous, on aimerait bien accentuer aussi toute cette culture d'animation de vitrine qui s'est un peu perdue, c'est-à-dire avec des ficelles, avec des poulies qui font bouger, toute une tradition, pareil, des années 60-70 qui s'est un peu perdue. Et on aimerait bien rejouer un peu sur ces activités-là, quoi.
Et la musique qu'on entend en bande son de ce train fantôme, c'est quoi?
Alors c'est vraiment une bande son qu'on a fait sur mesure, une espèce de, avec vraiment un clin d'œil et au train, donc quelque chose de lancinant, avec des bruitages, tout est fait en train ou avec des soupirs, un espèce de bruitage de train fantôme avec un petit côté fantastique et en même temps qui se prend pas au sérieux, quelque chose de référencé. Mais ça apporte quand même justement un côté plus immersif. Les enfants, par exemple, quand ils sont devant l'installation qui n'a pas de son, ça va, ils ne trouvent pas ça trop angoissant. Et dès qu'on met la musique, ça rajoute quelque chose d'un peu plus effrayant. Pour vraiment parler aux gens qui ne l'ont pas vu et qui veulent venir avec leurs enfants, on n'est pas du tout dans l'horreur. Hein. On est dans vraiment le léger petit frisson. Il y a un petit squelette par-ci, par-là, mais ça reste vraiment... nous pour tout public et en particulier pour les petits.
C'était le peintre, sculpteur, scénographe et musicien Simon Polignier qui nous parlait de l'installation Le Train Fantôme, conçue en la compagnie de Loïc Kreff alias Macula Nigra. Et à voir si vous avez le cœur bien accroché. Non, ça va, Simon nous le disait, ça ne fait pas vraiment peur, mais c'est très très beau ce Train Fantôme. C'est à voir donc jusqu'au 8 octobre au Théâtre du Vieux Saint-Étienne pendant le festival maintenant, tout comme vous pouvez retrouver aussi l'installation Instabilité de Benjamin Le Baron et Tristan Ménez au même endroit, c'est-à-dire cette magnifique église du vieux Saint-Étienne transformée en théâtre, qui est un écrin parfait pour l'installation de Lucien Biteau qui nous emmène aux confins de la galaxie pour accompagner la discussion que j'ai pu avoir mercredi soir avec Lucien Biteau. Vous reconnaîtrez sans peine un morceau phare de Pink Floyd, Interstellar Overdrive.
Je suis presque dans un cabinet d'astronome, j'ai pas envie de dire un cabinet, un laboratoire plutôt d'astronome au XVIIe siècle peut-être. Est-ce que c'est ça la véritable naissance de l'astronomie ? Non, c'est beaucoup plus vieux évidemment. On est avec Lucien Biteau qui lui nous fait vivre la perception de l'astronome ici pendant le festival maintenant. On est dans un dispositif que je vais laisser Lucien nous décrire un petit peu. Bonjour Lucien.
Bonjour. Merci pour cette interview. Donc dans cette installation, on voit différents modules optiques qui tournent, qui sont en orbite finalement, et qui retrouvent leur forme sur les murs puisqu'ils sont projetés par différents projecteurs, et ça génère du coup une sorte d'imaginaire cosmique sans cesse en mouvement avec ces différents modules qui ont différentes formes à partir de différents instruments issus justement de l'astronomie ou qui ressemblent, des prismes, des lentilles, des cubes de diffraction, des gélatines, des filtres de couleurs. Et donc du coup cela crée un paysage complètement mouvant et sans cesse en rotation.
Ce qui est très intéressant, c'est que ça joue sur les deux perceptions finalement. Notre perception de l'astronome et puis celle qu'il a lui-même.
Exactement, en fait c'était parti de questions autour des instruments qu'utilisent les astronomes, parce qu'en fait les instruments des astronomes c'est leurs outils de prédilection, leurs outils qu'ils ont nécessairement besoin d'utiliser, puisque sans eux, ce qui est invisible à l'œil nu resterait invisible à l'œil nu. On a besoin de ces appareils pour voir, et en même temps on cherche à les éliminer dans les images, à faire en sorte qu'ils n'existent plus dans les images. Donc en fait ils sont très importants chez l'astronome, mais en même temps on cherche à les enlever du résultat. Alors qu'ici, au contraire, ils sont complètement présents. Donc c'est aussi comment percevoir ces instruments, mettre ces instruments qui deviennent invisibles normalement, puisqu'ils sont invisibles dans les images, au centre de l'attention. Donc effectivement, c'est une perception renversée sur l'astronomie, c'est-à-dire une perception sur ce qu'on ne regarde pas d'habitude en astronomie, qui sont les appareils.
Dans cette partie de ce théâtre du vieux Saint-Étienne, ancienne église, je vous le rappelle, on a donc un enchevêtrement de projections, de diffractions, de lumières qui viennent se porter à travers, le prisme le plus brut peut-être, sur des murs qui auraient pu effectivement voir un astronome travailler juste à côté d'eux. Donc j'imagine que c'est un peu un vrai cabinet de curiosité, cet espace-là, finalement.
Ouais, complètement, en fait. C'est marrant parce que cet espace renvoie aussi à toute une histoire de l'optique, puisque dans les églises, il y avait aussi historiquement les vitraux. Donc du coup, il y a toute cette ambivalence de la projection et ce rapport, effectivement, du conflit entre l'astronomie et l'église à l'époque de Galilée, et qui est pour Simuevé la fameuse formule de Galilée, et pourtant ça tourne, de la Terre tourne, qu'il a prononcé lors de son procès, qui en fait renvoie aussi à cette confrontation ici, puisque tous les instruments d'optique tournent, et cette confrontation entre une technologie entre guillemets de optique qui marque une histoire de la vision et cette matière du mur, cette matière minérale qui a quelque chose de très brut par rapport à ces matériaux très quasiment industriels et en tout cas très techniques.
Je voudrais savoir quand même s'il y a des outils ici qui sont véritablement encore aujourd'hui utilisés en astronomie ou où il n'y a rien finalement de tel.
Alors en fait c'est des instruments qui sont utilisés en astronomie mais dans d'autres mesures, c'est-à-dire que ici il n'y avait pas les moyens de mettre les vrais instruments aujourd'hui professionnels de l'astronomie, puisqu'ils sont fabriqués à chaque fois sur mesure. En réalité, je reviens d'une résidence au Chili où j'ai visité les observatoires professionnels dans l'Atacama. Et effectivement, là-bas, il y a des prismes aussi, mais c'est des prismes qui sont faits calibrés exactement pour l'instrument et qui sont faits par des verriers professionnels et en un seul exemplaire. Donc, ils ne sont pas véritablement utilisés. Enfin, ceux qu'on voit dans l'installation ne sont pas utilisés. Mais pour moi, ce sont des cousins lointains, finalement, de ces appareils de pointe. Et certains astronomes amateurs, en fait, utilisent encore bidouilles avec des filtres de ce genre-là et des prismes de ce genre-là, même si, effectivement, ça reste un clin d'œil plus que des outils qui pourraient être usités. D'autant qu'ici, ils sont transformés et réinventés, finalement, puisqu'ils ne sont pas utilisés du tout à la manière qu'on les utilise habituellement en astronomie.
Quand on va sur le site internet lucienbiteau.fr, on a une litanie presque. Il y a vraiment de très très nombreuses installations de projets qui ont tous des noms qui nous font nous demander est-ce qu'on est dans une salle d'exposition, dans un laboratoire, dans un lieu d'expérimentation. Qu'est-ce qui a été la bascule, le fait de devenir créateur d'objets plastiques? Avant, il y a eu une autre vie, j'imagine, Lucien.
Je suis graphiste à l'origine, et du coup, tout ça vient d'une sorte d'intérêt pour les images en général, et pour les choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, pour cette image médiatrice qui transmet quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc comment une image est capable de transmettre ce qui est invisible normalement. Et donc cette flopée de projets et de recherches rejoint aussi peut-être mon appétence pour la recherche en général, puisque je fais une thèse aussi en création artistique. Et effectivement, ces expériences visuelles qui sont que j'essaie de nourrir sans cesse nourrissent aussi ma recherche théorique et sont aussi une façon de pousser, d'épuiser l'image, de pousser l'image dans ses retranchements et dans ses limites par rapport aux instruments, notamment aux médiums qui les font naître. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'essaie de pousser comme ça cette recherche dans cette générosité, j'essaie de l'appeler comme ça, de projet.
On pourrait imaginer un Galilée, un Copernic ou un Léonard de Vinci complètement à leur aise ici en tant que spectateur.
J'aurais pas cette prétention. Je serais trop intimidé pour leur présenter quoi que ce soit.
Mais en tout cas, si j'ai cité Léonard de Vinci, c'est aussi surtout parce que lui, on le connaît pour les deux aspects, peut-être recherche pure et puis création pure. Et tout se mélangeait. Il y a d'autres grands ancêtres comme ça, des prédécesseurs qui ont eu le même parcours.
Dans les ancêtres, moi, les méditations métaphysiques de Descartes, bon, ça date aussi, mais c'est aussi un moment où il y avait effectivement, c'était des pratiques hybrides entre la philosophie, la science, les arts parfois, qui sont scindées à la fin du XVIIe siècle, je pense, avec les académies en France, l'Académie des Beaux-Arts, l'Académie des Sciences, etc., qui sont apparues, l'Académie française, qui ont distingué les champs et du coup qui ont créé ces disciplines, vraiment au sens disciplinaire. Et donc, du coup, moi, j'aime bien effectivement casser ça, et c'est pour ça que j'essaie de travailler aussi avec des scientifiques pour essayer de briser ces codes-là. Après, d'autres artistes le font aussi, hein, de plus en plus, dans les champs arts-sciences. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, m'intéresse et qui est revenu, je pense, aussi avec justement le numérique dans les années 60 et les arts cybernétiques, dans cet intérêt pour le... Et puis le Bauhaus, Molinaghi, pardon, et Man Ray, qui avaient aussi cette envie de... Et qui d'ailleurs trouvaient le mot art galvaudé pour ça. Une envie de créer un art populaire qui serait hybride justement entre les différentes disciplines et qui s'inspirait vraiment des technologies de l'époque pour insuffler à chaque fois que l'art soit sans cesse qu'il n'y a pas de nouvelle vague mais tout le temps une vague en fait.
Les nouvelles technologies c'est plutôt la photographie peut-être à l'époque, ici on a quelques vidéoprojecteurs sans doute, mais finalement la technologie utilisée ici elle est assez rudimentaire.
Oui, exactement, il y a des moteurs qui sont qui sont en fait simplement reliés à l'électricité, puis des projecteurs qui font en fait un petit mapping sur les différentes optiques. Mais les technologies, elles sont effectivement aussi dans la combinaison, c'est-à-dire que c'est un vidéoprojecteur avec des prismes qui sont quand même des prismes qui sont industrialisés, c'est pas des prismes de l'époque de Newton qui sont coulés par des verriers, et avec tout un aussi des matériaux en fait, des fils polarisants, etc., qui sont utilisés dans le monde de l'image numérique, notamment dans les écrans ou dans les capteurs d'appareils photo. Donc c'est pareil, c'est encore une fois, c'est une histoire d'évocation, avec cette histoire de rouge-vert-bleu aussi, qui est propre à la décomposition de la lumière, qui est très présente dans les écrans numériques aussi, et qui revient dans cette installation. Donc c'est plutôt aussi une mise en regard de technologie, enfin encore une fois, une hybridité entre quelque chose d'archaïque, effectivement, le prisme qui date du XVIIe siècle, XVIe siècle, et des projecteurs ici. Et en fait, c'est vrai que c'est marrant de le voir dans une église, qui a encore cette dichotomie un peu pour moi. En tout cas, quand je le vois après, peut-être que ça évoque aussi simplement ce cabinet de curiosité. Mais pour moi, je vois aussi ce rapport historique qui se joue.
Et je vais terminer ici avec Lucien Bito. Outre ce prisme rouge, vert, bleu, je vois quand même une sorte de spirale qui me rappelle un petit peu l'ADN qui tourne autour de nous là. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'est pour évoquer l'ADN justement qu'on voit ce codage là, bleu et rouge ? C'est un hasard ?
Alors, c'est plus ou moins un hasard. J'aime bien travailler avec le hasard. Après, ça m'intéresse que des formes entre guillemets organiques, puisque enfin, ça évoque l'ADN, naissent d'objets inorganiques. Ça, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. En fait, cette forme qui ressemble à quelque chose, à une forme d'une structure d'un ADN, m'intéresse aussi parce qu'elle est née d'un hasard, mais ça fait ce dialogue en fait, entre un objet inorganique, puisque moi j'aime bien travailler aussi sur les minéraux, et le rapport justement à quelque chose de vivant. Donc comment en fait le minéral peut devenir quelque chose de vivant aussi au travers de ce genre de formes aléatoires qui en naissent. Et ici en fait dans ces formes inorganiques qui tournent, il y a du coup ces formes qui surgissent mais qui sont des accidents effectivement d'expériences empiriques que je fais avec des lentilles et des différents objets optiques et qui d'un coup provoquent un paysage inattendu qui même moi me surprenne. Et c'est ça qui m'intéresse puisqu'en astronomie, eux-mêmes utilisent des sondes et qu'ils envoient dans l'espace et comme des filets à papillons essaient de récupérer des informations, des formes qui sont assez inattendues en fait et donc du coup qui m'intéresse puisqu'elles sont entre le hasard et en même temps un processus qui a été pensé en amont puisqu'on cherche à voir mais on ne sait pas exactement ce qu'on va voir. Donc on met en place un processus et donc après il y a un résultat ou plusieurs résultats et donc ces résultats-là inventent des mondes finalement.
Si j'ai cru qu'il y avait une vie avant celle d'artistes plasticiens, non, en fait, elles ont commencé en même temps, les deux vies sans doute, d'hommes intéressés par la science et par les arts. Donc si on imagine Lucien Bito enfant, il avait un oscilloscope et puis aussi un xylophone à portée de main.
En tout cas, il avait des scopes, puisque ça m'intéresse beaucoup, puisque les scopes... j'ai essayé d'ailleurs, pour rassembler tout ça, d'inventer une sorte de discipline qui s'appelle la scoposcopie. Et donc il y a une sorte de discipline qui est le scope du scope, donc comment on observe l'appareil lui-même. Mais effectivement, ouais, il y avait un microscope, en tout cas plein de lunettes et plein de choses à mettre devant les yeux et pour essayer de voir autrement.
Merci à Lucien Bito qu'on écoutait à l'instant nous parler de son installation La Perception de l'Astronome. Merci également à Simon Polinier qui nous parlait de Train Fantôme et puis à Benjamin Le Baron avec lequel on évoquait l'installation Instabilité concoctée avec Tristan Ménez. Retrouvez toute la programmation du festival maintenant et ce qui se passe notamment du côté du Théâtre du Vieux Saint-Étienne sur maintenant-festival.fr. dans la session Info Concert aujourd'hui, un seul et unique événement qui se produira le jeudi 19 octobre au One's Pub, où vous pourrez rencontrer peut-être les petits-enfants de Pink Floyd, allez savoir, imaginaire en tout cas ces petits-enfants-là, Sir Edward et leur Flower Crowd Pop. On les écoute avec un morceau assez ancien quand même, il date de 2018, le titre qu'on va entendre maintenant, le morceau Duty of Time, et on termine Crème de la Crème avec eux. On se retrouve vendredi 18h-19h en direct du Tabor pour une émission autour du festival Le Grand Soufflet, où nous retrouverons notamment Radix et puis aussi Turfu, sans oublier les Ukrainiens de Dakabraka. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Canal B. Ciao.